Laissez-nous passer, laissez-nous passer, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, on n'a rien fait ici, on n'a pas venu pour faire du mal.
RFI. Grand reportage.
C'était l'an dernier, le président tunisien s'en prenait aux migrants établis ou de passage en Tunisie. Des propos qui avaient été suivis de semaines de violences anti-noires qui ont culminé durant l'été 2023 avec des migrants déportés par centaines vers des zones désertiques ou vers les frontières avec l'Algérie et la Libye, sans eau, sans nourriture et en plein été. Aujourd'hui, les migrants sont moins nombreux dans les grandes villes de Tunisie. Le supplice des migrants subsaharés en Tunisie, c'est un grand reportage d'Amira Souilem.
Le port d'Elouze a retrouvé son calme. Situé à une quarantaine de kilomètres de Sfax, il était l'une des plaques tournantes des départs vers l'Europe cet été. Sur un bateau à quai, Mohamed Ben Ali rafistole ses filets, aidé d'un ami. Il est pêcheur et il avoue son soulagement.
Moi, en ce qui me concerne, j'ai sauvé de la mort plus de 200 personnes. Tout est consigné au commissariat. Tu peux aller vérifier. Oui, ce bateau a sorti plus de 200 personnes des flots. On sort en mer pour aller chercher de quoi faire vivre nos enfants et on se retrouve à devoir ramener au port des migrants qui ont fait naufrage. On rentre à leur bredouille, chez nous, sans rien. Et je ne vous parle même pas des cadavres que l'on voit. Mais cette année, ça va mieux. On était arrivé à un point où, quand j'apportais du poisson à la maison, personne ne voulait en manger à cause des cadavres que la mer rejette. C'est une catastrophe, mais cette année, ça va.
Des renforts matériels ont afflué dans les ports de la région. Tout au long de notre tournage, la présence de la garde nationale a aussi été fréquente. Tout en martelant qu'elles ne sont pas les gardes-côtes de l'Europe, les autorités tunisiennes ont renforcé drastiquement leur mission de surveillance ces derniers mois. Et elles tiennent à ce que ça se sache. Sur des images diffusées par le ministère tunisien de l'Intérieur, on peut voir des opérations de déguerpissement, comme ici, sur cette place de Sfax en septembre 2023. Le gouvernement tunisien veut montrer qu'il agit. Ses partenaires européens le somment de le faire depuis des mois.
Très bien.
Je suis très heureuse d'être ici.
En 2023, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a multiplié les allers-retours à Tunis. C'est elle que l'on entend plaisanter ici avec le président tunisien, Kais Saied.
Vous êtes une femme qui dit tout ce que les autres pensent tout bas.
Ayant désormais ses entrées à Carthage, elle atterrit en juillet dernier à Tunis, accompagnée d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
Good evening. Team Europe is back in Tunis. I'm glad to be here with Prime Minister Giorgia Meloni and Prime Minister Mark Rutte.
Contre une promesse d'enveloppe d'1 milliard d'euros, composée d'aides et de prêts, la Tunisie s'est engagée à mieux tenir ses frontières. Depuis, les relations avec l'Union européenne se sont un peu tendues, mais les autorités tunisiennes maintiennent la pression sur les migrants, car elles sont elles-mêmes sous pression, celle d'une partie de la rue tunisienne. Échaudée par la crise économique, une partie de la population ne cache plus son hostilité à l'encontre des migrants subsahariens. Certains Tunisiens demandent même leur départ du pays. L'an passé, des migrants ont même subi des descentes à domicile, parfois mortelles. Ce jour-là, au port d'Elouze, un homme qui n'est ni pêcheur ni garde-côte, Wahid Dehesh, est un activiste tunisien qui suit la situation de près. À quelques mètres de lui, s'entassent les carcasses en fer des embarcations de fortune qui ont fait naufrage cet été. Malgré le durcissement des contrôles, il sait que certains restent prêts à tout.
Je viens de recevoir un SMS de la part d'un ami activiste dans le domaine des migrations. Il y a une embarcation qui vient de faire naufrage au large de la ville d'El Sheba. Les dernières informations disent que 42 Soudanais étaient à bord de ce bateau. Ils avaient des cartes prouvant leur statut de réfugiés. À ce stade, 13 corps ont été repêchés. C'est étonnant que ce départ ait pu avoir lieu parce que les côtes sont désormais verrouillées par les gardes-côtes. Comment ce départ a pu avoir lieu? Ça reste un point d'interrogation.
Wahid se met immédiatement en route pour El Cheb afin d'avoir plus d'informations. Sans succès, les policiers renvoient vers leur supérieur, absent à ce moment-là. Ils rebroussent donc chemin. À défaut d'en savoir plus sur le dernier naufrage, ils décident d'aller prendre des nouvelles de migrants qu'ils connaissent et qui ont trouvé refuge dans les oliveraies de la région.
Comment allez-vous ?
Nous sommes à El Amra, c'est à environ 25 km au nord de la ville de Sfax. C'est ici que se sont établis certains migrants depuis juillet dernier. C'est un de leurs spots. C'est la dernière halte avant un départ vers l'Italie. Rien qu'ici, il doit y avoir 20 000 migrants. On parle de chiffres énormes. C'est cela qui a poussé de nombreux habitants à manifester et à demander à ce que l'État trouve une solution à la situation des migrants ici. L'État essaie de trouver une solution, mais ce que l'on peut constater en venant ici, c'est que cela tarde. Il n'y a pas de solution, rien n'a changé. Il y a juste moins de migrants sur les artères principales et dans le centre-ville. À la place, ils sont là, dans les oliveraies, et ça ne bénéficie à personne, ni à eux en tant que migrants, ni à la région. Regardez ce terrain. Son propriétaire pâtit de la situation. La récolte des olives a été rendue compliquée par leur présence. Quand il pleut, ils sont exposés aux pluies et au froid. La situation des migrants est vraiment compliquée aujourd'hui.
Éloignés des grandes villes et des côtes, les exilés se rabattent vers l'arrière du pays désormais. À la précarité matérielle vient s'ajouter l'intranquillité mentale. Un jeune homme fait signe de le suivre.
Venez, je vais vous montrer. Ici, c'est un peu de l'appartement de Black.
Il est guinéen, il a 22 ans et se fait appeler Smile.
Nous ne nous sentons pas en sécurité ici parce que la population, ils peuvent venir à n'importe comment, à n'importe moment. Donc on est là, on a peur, on vit avec la phobie. Mais à chaque jour, même aujourd'hui, j'ai été à la boutique, ils m'ont poursuivi, vous voyez ma chaussure. Ça a été coupé aujourd'hui. Ils m'ont poursuivi à la boutique. Donc nous sommes tombés, on a pris les cours des gens, les chiens aussi nous ont sachés. Ça, c'était aujourd'hui même. Aujourd'hui, le matin, quand je suis parti chercher le déjeuner, c'était la garde nationale. Non, ils sont venus, on était dans la boutique, on était à l'intérieur de la boutique. Et ils sont venus dans leur voiture. Ils ont filé, venu garer directement devant la boutique. Ils sont descendus, c'est comme si on est en guerre ou quelque chose. Il y a une personne qui nous a signalé police, tout le monde a essayé de fuir. Ils ont même attrapé certaines personnes. Bon, tout le monde quand même a essayé de fuir. Tu fuis comme tu peux, parce que tu ne peux pas regarder ton prochain comment il va. Toi, c'est pour toi qui va t'inquiéter.
Le lendemain de notre tournage, en se rendant dans une épicerie près de l'Oliveraie, ce jeune homme a été arrêté et refoulé en Libye. Selon nos informations, il serait aux mains de milices qui demandent une rançon. Quel destin pour ces migrants ? Impossible de rentrer au pays, indésirable en Tunisie, interdit d'entrer en Europe, des milliers d'hommes, femmes et enfants vivent cette impasse au quotidien. Aïcha est originaire de Sierra Leone. Mère de 4 enfants, elle regrette amèrement d'être venue en Tunisie.
My mom is too afraid in our family. So my mom, when I'm living with, she passed away.
Pour elle, comme pour tant d'autres, le rêve européen a vite viré au cauchemar.
When I came, I met my brother. He's the one taking good care of me.
Quand je suis arrivée ici, j'ai retrouvé mon frère qui a pris soin de moi. Un jour, alors qu'il marchait, il a été arrêté. Je suis allée au commissariat de police. Je leur ai dit que c'était la seule personne qui me restait de ma famille. Je les ai implorés de le relâcher. Ils ont refusé. Ils ont pris mon frère et l'ont envoyé dans le désert avec quelques autres personnes. Comme ils avaient des téléphones, ils m'ont appelé. Je lui ai parlé et là mon frère m'a dit « Je ne vais pas y arriver. Je n'y arrive pas. On n'a ni eau, ni nourriture. » On est au milieu du désert, il n'y a nulle part où aller. Je ne vais pas y arriver. Reste calme.
So please, just stay calm. So that is the last time I speak with him.
Et ça a été la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. J'ai tellement pleuré et prié ce jour-là. Quand j'ai rappelé, les personnes qui étaient avec lui m'ont dit « Désolé, on a fait ce qu'on a pu. Ton frère est parti. Il est parti. On l'a enterré dans le désert. » Comme un inconnu. Je ne peux plus parler. C'est tout.
Ici, tout sont des histoires de violences verbales ou physiques à raconter. Ebou Bakr, le regard vide, installé devant sa bâche en plastique qui fait office de tente, se rappelle du jour où il a vu la mort de près. C'était un soir d'avril 2023.
We have an attack from the house we are living.
On a été attaqué alors qu'on était dans la maison que l'on louait. Ce sont des citoyens tunisiens qui nous ont attaqués. Ils avaient des pierres, alors j'ai sauté de l'étage. J'ai couru pour me sauver, j'ai fini dans une mosquée où les gens priaient. Après la prière, ils sont venus vers moi et avaient de la peine pour moi, vu l'état de ma jambe. Ils ont appelé une ambulance. Ils m'ont sorti de la mosquée, et là, une patrouille de police est passée. Ils ont vu qu'il y avait un attroupement, alors ils ont demandé ce qu'il se passait. Ils leur ont expliqué qu'il y avait un Africain blessé. Au lieu de partir en ambulance, c'est la police qui m'a pris avec elle. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait 4 bus stationnés et plein d'Africains. Des Noirs, quoi. Ici, en Tunisie, on nous appelle Africains, en fait. On m'a fait monter dans le bus. On a roulé toute la nuit. Je ne savais pas où on nous emmenait. Je pleurais qu'on vienne m'aider, qu'on m'emmène à l'hôpital. Mais ils ont refusé de le faire. À la place, j'ai été emmené dans le désert.
Débute alors, selon son récit, plusieurs semaines dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Comme plusieurs migrants rencontrés à Al-Amra ce jour-là, Ebou Bakr a fait le choix de revenir malgré tout dans la région de Sfax. Il montre la radiographie qu'il a enfin pu faire de sa jambe blessée.
They gave me this paper. This my foot.
Ils m'ont donné ces papiers, ça c'est ma jambe là. Ils ont pu voir où était le problème. Le seul espoir que j'ai là, c'est d'entrer en Europe. À l'hôpital, ils m'ont dit que c'était trop tard pour eux, pour pouvoir faire quelque chose. L'os ne peut pas retourner à sa position initiale, alors j'espère pouvoir entrer en Europe pour pouvoir soigner ma jambe.
Dans ce bidonville en pleine campagne, la vie est rythmée par les tâches quotidiennes, cuisine, foot, prière. Mais surtout, surtout, le rêve de rallier l'Europe au plus vite.
Laissez-nous passer, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, on n'a rien fait ici, on n'est pas venu pour faire du mal. On n'est pas venu pour faire du mal ici, on est venu seulement pour traverser.
Gagner l'Europe au risque de sa vie. Des milliers de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale attendent leur tour ici en Tunisie, devenue bien malgré elle, terre de transit. L'an dernier, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté 5 fois plus de migrants que l'année précédente. Face à un vieux continent qui se cadenasse, certains avaient fait le choix de rester en Tunisie. En plein Tunis, une association a fait le pari de l'insertion depuis 2 ans et demi.
Moi, je m'appelle Chloé Lepron, je suis française, je travaille dans l'association Ftarchi depuis 2 ans déjà, j'ai 25 ans, et du coup, là, on est dans les locaux de l'association, on va assister à un cours de pâtisserie qu'on fait pour des femmes migrantes, c'est une formation de 2 mois, et là, elles sont à peu près en milieu de formation, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles font. Yosra, elles font quoi aujourd'hui, les filles ? Du coup, Yosra, c'est notre prof de pâtisserie, Amiela, qui fait un petit reportage radio.
Ce jour-là, une 15aine de femmes sont regroupées autour de Yosra, leur professeure tunisienne.
Juste, elle enregistre le bruit du fouet.
C'est le blanc en neige ferme. Maintenant, vous pouvez ajouter le sucre semoule un peu lui. Et au fur et à mesure, il faut mélanger.
Et Yosra, vous me donnez faim, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ?
Donc, on est en train de faire les langues du chat pour préparer un tiramisu.
Eden, congolaise, 24 ans, en Tunisie depuis un an, suit les instructions avec attention. Elle compte bien mettre à profit cette formation.
D'abord, acquérir de l'expérience en Tunisie lors des stages et si je peux trouver un boulot. Et après, peut-être repartir au Congo parce que là-bas, il n'y a pas trop de pâtisseries. Et aussi, puisqu'il y a aussi des Marocains, des Tunisiens aussi au Congo, pourquoi pas faire cet ensemble-là de la pâtisserie française et tunisienne et congolaise.
Pourquoi pas ouvrir une pâtisserie en fait
Ouvrir une pâtisserie là où il y a ces cultures-là, tunisienne, européenne et congolaise.
Ces étudiantes en pâtisserie sentent bien qu'elles ne sont pas les bienvenues en Tunisie. Yosra, leur formatrice tunisienne, essaye d'apporter un peu de chaleur dans leur quotidien souvent difficile.
Vous avez plein de photos de vos stagiaires sur votre téléphone. Vous êtes fiers d'eux ?
Oui, bien sûr. Toujours, je vais faire les photos lorsque mes stagiaires travaillent.
Et qu'est-ce que ça vous apporte de travailler ici pour Ftar chez vous en tant que chef ?
Sincèrement, je suis très contente de travailler avec ces migrants parce qu'il y a une différence entre travailler avec eux et avec de jeunes Tunisiens. Ce n'est pas pareil. Les migrants ont plus l'envie de travailler. Ils veulent apprendre plus de choses d'après ce que je vois. Ils sont bien plus motivés. Ils ne sont pas dans leur pays, donc ils veulent travailler. Ils veulent avancer pour pouvoir trouver un travail.
Se former, c'est bien. Mais le défi pour ces femmes en situation irrégulière, la plupart du temps, c'est justement ça, trouver du travail.
Alors nous, on travaille surtout avec des employeurs en fait, dont ça leur tient à cœur d'employer des personnes migrantes. Il faut les toucher un peu sur cette corde-là. Donc c'est des gens qui sont souvent sensibles à cette cause et qu'on connaît personnellement. Voilà. Et ça, comme ça, ça marche souvent assez bien.
Bravo, bravo.
Une insertion rendue de plus en plus délicate.
Ça va.
En février 2023, la présidence tunisienne rend public un communiqué dans lequel elle s'érige, je cite, contre les hordes de migrants illégaux qui ont vocation, je cite toujours, à modifier la composition démographique du pays. Des mots qui vont mettre le feu aux poudres en Tunisie. Des violences anti-migrants éclatent. Nombreux sont ceux qui perdent travail et logement.
Et donc en Tunisie, on a une année, l'année 2023 a été extrêmement éprouvante pour les communautés subsahariennes. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose pour vous ici chez Ftar?
Nous, on ne communique plus sur Facebook sur nos activités parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on a des vagues, enfin on a des commentaires haineux, on reçoit des messages d'insultes, donc on ne peut plus communiquer là-dessus. Enfin, même notre formatrice, elle, on avait partagé des photos de la formatrice et quelqu'un avait trouvé sa page personnelle sur Facebook et l'avait traité de traître à sa nation parce qu'elle donnait des cours de pâtisserie à des femmes noires, donc voilà, on évite d'exposer surtout des gens qui sont pas de l'équipe, quoi, et nos bénéficiaires et nos formateurs.
Yusra, et vous dans votre cercle, vos amis, la famille, quand vous leur dites ce que vous faites, quelle est leur réaction?
Ils ont la réaction typique. Ils me disent « fais attention à toi », etc. Mais j'essaye de changer leurs a priori. Ça m'arrive même d'inviter certaines des migrantes à la maison. Ma famille me dit « ça ne se fait pas, tu ne les connais pas ». Je les rassure, je leur dis que ce sont des gens bien, qu'il n'y a pas de problème. En fait, nous, les Tunisiens, on a tous des membres de notre famille à l'étranger. Eh bien, traitons ces migrants comme on aimerait qu'on traite les nôtres à l'étranger, c'est tout.
Ni plus ni moins.
Le supplice des migrants subsahariens en Tunisie, un grand reportage de Amira Souilem, réalisation Alice Ménard.